Madame Boucher, vous êtes avec nous, elle est directrice des réseaux des centres de ressources périnatales du Québec. Comment allez-vous?
Bien, merci pour l'invitation.
Alors écoutez, je disais en introduction que c'est pas évident, autant c'est merveilleux d'avoir un enfant, mais autant quand on arrive à la réalité et qu'on voit notre société qui est vraiment rendue individualiste, ça peut être assez difficile.
Oui, tout à fait.
Dites-moi, quelle est la signification du mot périnatalité?
En fait, la périnatalité, on va parler du moment où on décide d'avoir un enfant jusqu'à la première, voire la deuxième année de vie. Mm-hmm. Nous, au réseau, on parle du moins 9 mois, c'est-à-dire la grossesse, jusqu'à plus ou moins 2 ans, selon le besoin. Bref, en fait, tout ce qui entoure la venue et la naissance d'un enfant.
Donc, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on va se renseigner, on va prendre un livre. D'ailleurs, je pense qu'il est distribué à l'hôpital dès qu'on sort, hein, à la naissance de l'enfant.
Oui, il y a un livre, effectivement, « Le mieux vivre » avec son enfant qui est offert gratuitement aux familles.
Mmh. Alors, l'effritement des réseaux traditionnels, je parlais de la famille éloignée, les grands-parents qui travaillent, c'est difficile d'avoir de l'information parce qu'avant, ça se transmettait de génération en génération. Puis là, bon, on sort, on regarde, on a le livre, la meilleure amie ou le meilleur ami est retourné travailler s'ils ont eu la chance d'avoir eu un enfant en même temps que nous.
Oui.
Sinon, ça les rejoint pas. Comment on fait pour s'en sortir quand on est parent parce qu'on se retrouve un petit peu seul, hein?
Oui, tout à fait. Puis on est d'accord pour dire que la transition à la parentalité, c'est une expérience intense. Hein. C'est porteuse de beaucoup de conditions qui seraient propices à une vulnérabilité, dans le fond, là, peu importe la condition de vie des familles.
Mm-hmm.
Et effectivement, autrefois, on voyait que les familles nombreuses étaient aussi proches physiquement, ce qui facilitait l'expérience de la parentalité. Notre société a changé. Hein,
oui.
Les familles sont plus petites, sont plus éloignées physiquement. Les femmes sont sur le marché du travail pour la plupart aussi.
Voilà.
On fait face aussi à une multiplication des sources d'informations. Hein. On a su ça penser à Internet, entre autres, ce qui fait que les familles se retrouvent devant une très grande source d'informations diversifiées et parfois contradictoires aussi.
Oui, c'est ça. C'est quand ils ont une question, ils vont sur Internet et puis
exactement.
Là, finalement, ils se font des peurs.
Mais parfois, ça crée exactement. Ça crée de l'insécurité parce qu'on voit aussi des contradictions dans les informations.
Mm-hmm.
Il y a aussi toutes les valeurs de société hein, auxquelles on est contraint, entre autres la valeur de performance.
Mm-hmm.
Ça amène une pression additionnelle auprès des parents et des familles. Donc, c'est sûr aussi qu'on peut penser à tout ça, qu'on peut ajouter au fait que depuis quelques années, les séjours hospitaliers ont été considérablement aussi réduits.
Oui.
Des ressources aussi médicales ont été réduites. Donc, les parents se retrouvent avec un besoin accru à cet égard-là. Et bon, on peut pas négliger aussi le fait que on veut aussi permettre aux femmes et aux couples de se réapproprier leur rôle de parents et dans tout le processus de l'accueil et de la préparation à la naissance.
Mmh. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos centres, les ressources qu'on peut avoir?
En fait, c'est assez diversifié. On va aller avec des activités d'information, de la documentation, des références.
Mmh.
On ne prétend pas avoir tous les services. Exemple, les services médicaux, on ne les offre pas dans nos centres. Donc, on va plutôt y aller sous forme de référence à ce moment-là, de l'écoute, de l'accueil. Et là, on va y aller aussi avec une panoplie d'activités, ne serait-ce qu'en prénaissance, des activités dans le devenir parent, hein, de mm-hmm. l'information prénatale, des activités aussi qui vont permettre une préparation à l'accouchement de façon le plus naturelle possible, soit l'hypnovie, du yoga prénatal, le massage de femme enceinte. Tout ça. Et bien sûr, toutes les activités postnatales, là, on pense au soutien à l'allaitement, des activités de remise en forme également, et des services, évidemment, de relevail à domicile. Et bien d'autres, là, on a aussi des services complémentaires qu'on peut appeler là, au niveau de la exemple des friperies, des boutiques en périnatalité, etc. Là. Et c'est assez varié et c'est surtout personnalisé.
Mm-hmm.
Donc, le parent va y aller en fonction des besoins qu'il a. Et on aura essayé de répondre le plus possible à ses besoins à lui.
Justement, en 2015, quelles sont les questions des parents le plus fréquemment que vous avez en ce moment-là?
En fait, c'est très varié. Mais les parents ont besoin d'être écoutés, d'être validés dans leur expérience parentale. Ils ont besoin aussi de vivre des expériences dans le rôle de parent, des stratégies pour bien s'adapter à leur nouveau rôle également. Les parents vont souhaiter un accompagnement qui ne sera pas prescriptif, qui va être respectueux, sans jugement. Donc, ils ne viennent pas nous voir pour avoir une prescription, mais bien pour avoir, dans le fond, un accompagnement, un soutien. Donc, ça va aller à des questions très techniques, hein? Des questions aussi pour comment bien se préparer à l'accouchement et surtout les soutiens à l'allaitement, les relevailles. Après, vous parliez tantôt dans votre préambule à l'émission des dépressions postpartum.
Oui, tout à fait.
Donc, on va être là aussi en soutien. On a même des groupes de soutien dépression postpartum. C'est aussi même des groupes de soutien en deuil périnatal, car il ne faut pas négliger ça. Oui. Donc, vraiment en fonction de ce que le parent vit lui-même.
Est-ce que l'isolement, j'en parlais justement en introduction, est-ce que c'est un grand problème, le fait que, bon, vous l'avez dit, on travaille, les femmes, on est très heureuses de travailler, mais parfois, c'est avec la situation, comme tout le monde travaille, se retrouve souvent toute seule. On sait très bien qu'au Québec, le père n'a pas le même nombre de journées que la mère, donc au bout de quelque temps, il s'en va, il retourne, et elle se retrouve toute seule avec son bambin. Ça ne doit pas être évident non plus.
Tout à fait. Puis les amis, comme vous disiez, sont aussi sur le marché du travail. Mmh. La grand-maman ou grand-papa également, souvent, sont encore sur le marché du travail ou éloignés physiquement, qui ne fait qu'ils ne sont pas disponibles. Effectivement, et surtout avec le modèle de la femme qui est sur le marché du travail, qui est donc active, elle aussi, donc se retrouver à la maison, plein avec un bébé, effectivement, c'est parfois un besoin qui n'est pas toujours nommé clairement, mais qui est très présent, ce besoin de briser l'isolement, de créer un réseau social également, de se retrouver avec d'autres qui vivent la même situation ou dans la même période de vie. Donc, effectivement, on est des milieux de vie qui vont permettre et faciliter de briser cet isolement-là.
Vous parliez de société de performance. Est-ce qu'on essaye d'être... là, on parle des parents, moi, je parlais de la mère. Est-ce qu'on essaye d'être aussi performante avec son bébé qu'avec son travail? Est-ce qu'on n'en demande pas trop, un petit peu, qu'on essaye de déjouer la nature?
Oui, effectivement, on est dans ce contexte sociétal-là, effectivement, où on doit aussi parfois recadrer et rassurer le parent qui... qu'il fait est bien fait, puis qu'il n'y a pas à s'en douter, mais effectivement, les parents ont cette pression de pas toujours être à la hauteur des attentes qu'on a d'eux, alors que c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important qu'ils soient rassurés à cet effet-là. Mais oui, je pense que les parents aujourd'hui vivent cette pression de performance parentale.
Notamment avec l'allaitement, où là, la pression de la société, parce qu'on sait le bienfait que ça a pour l'enfant.
Oui.
Mais parfois, il y a plein de choses. La personne a eu une césarienne, il y a eu des problèmes, et puis pof, on doit abandonner ce projet.
Et parfois, c'est par valeur où la personne est rendue, elle n'est pas prête à vivre ça, mais effectivement, on doit la soutenir sans jugement dans tout ça. Là.
Est-ce que c'est toujours aussi fort, ça, cette pression qu'on fait sur les femmes pour l'allaitement?
Bien, pression, j'aime pas tellement le terme, parce que dans le fond, pour nous, c'est pas une pression. C'est sûr qu'on va favoriser l'allaitement. Mm-hmm. On sait très bien que c'est ce qu'il y a de mieux, autant pour le bébé que même pour la relation mère-enfant, etc.
Tout à fait.
Mais dans les situations où c'est pas possible, il faut aussi respecter ce choix-là. Donc, on va essayer de trouver des alternatives avec le parent pour que tout se passe très bien. Mais c'est sûr que on va favoriser, on va encourager le parent à l'allaitement pour le bienfait que on connaît tous.
Mm-hmm. Okay. Alors, les parents nous écoutent en ce moment, il y en a qui vont avoir leur bébé. Comment puis-je avoir accès à vos services?
En fait, la meilleure façon, je pense, c'est vraiment de consulter le site du réseau des CRP, qui est au www.réseaudescrp.org. Vous allez trouver dans la liste des membres actifs tous les coordonnées des membres avec accès à leur site Internet également, qui vont donner l'accès des services le panier de services que chaque CRP offre selon les régions. Ça va être la meilleure façon, là, je pense, que de trouver les services dans leur région des parents.
Merci, Mme Boucher.
Mais merci beaucoup et au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Une bonne journée.
Vous aussi.